Vous écoutez
RMC.
Excellent lundi à tous. Il est 8h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous allons évidemment revenir dans le journal sur ce coup de théâtre ce matin. Les aveux de Cédric Jubilard qui reconnaît donc le meurtre de son épouse dans une lettre adressée à ses avocats 6 ans après le début de l'affaire. Nous serons dans les Pyrénées-Orientales en direct ce matin où le gros incendie qui fait rage depuis samedi n'est toujours pas fixé, dit le préfet, attisé par le vent et la troisième canicule qui s'installe sur le pays. Et nous serons aussi à la Coupe du Monde de football où Donald Trump se croit tout permis et parvient à faire annuler un carton rouge infligé aux Américains.
C'est le journal La Dépêche qui révèle donc ce matin les aveux de Cédric Jubilard.
Et c'est un coup de théâtre puisque Cédric Jubilard a toujours nié quelconque rôle dans la disparition de sa femme en 2020 à Cagnac-les-Mines, souvenez-vous, dans le Tarn. Il avait été condamné en fin d'année dernière, souvenez-vous, à 30 ans de réclusion criminelle. Et bien Marion Gauthier en direct ce matin pour RMC. Il est donc passé aux aveux dans une lettre adressée à ses avocats.
Oui, une lettre manuscrite, une feuille recto verso sur laquelle Cédric Jubilard raconte cette soirée du 15 au 16 décembre 2020 alors que Delphine envisage de refaire sa vie avec un autre homme. Frédéric Abella est journaliste à La Dépêche, c'est lui qui a accès aux documents.
C'est une dispute, hein. Cette période, c'est un couple, voilà, il y a de l'électricité dans l'air, la tension est extrême et c'est une énième dispute qui cette fois tourne très mal. Voilà, il donne des éléments sur la chronologie de la soirée, sur ce qu'il a fait du corps, sur comment il l'a transporté, sur où est-ce qu'il l'a déposé et il se tient à la disposition de la justice.
Et l'accusé réserve les détails de la disparition à la justice, déclare son avocat à La Dépêche du Midi, maître Pierre de Buisson, qui dit le soulagement de son client, son besoin de parler. Après 5 ans de réclusion à l'isolement, 5 ans de dénégation, Cédric Jubilard veut donner une sépulture à la mère de ses 2 enfants, ajoute son avocat.
Alors Cédric Jubilard devait être jugé en appel au mois de septembre, à la fin de l'été, donc, mais évidemment ses aveux changent complètement la donne.
Oui, la présidente de la cour d'assises de la Haute-Garonne pourrait ouvrir un supplément d'informations, ce qui implique de réentendre Cédric Jubilard, consigner ses aveux dans un procès-verbal, mener de nouvelles recherches pour trouver la dépouille et l'analyser. Tout cela devrait prendre du temps alors que le procès en appel est prévu le 21 septembre et pour 4 semaines, un délai difficilement tenable.
Marion Gauthier en direct ce matin pour RMC. Ça recommence ce matin. Il y a donc 16 départements, vous l'avez entendu, en vigilance orange pour la chaleur. 9 de l'ouest qui s'ajoutent aux 7 qu'il était déjà dans le sud-est. Géraldine Demory, c'est donc la 3e canicule en seulement 3 mois. Et alors celle-ci, on ne sait pas combien de temps elle va durer et surtout quelle ampleur elle va avoir.
Pour la durée, pour l'instant, on n'en voit absolument pas le bout. A priori, ce sera quand même un épisode moins intense que celui du mois de juin, mais qui était complètement historique. Ça va être un épisode durable. Ce qu'on sait, c'est que dans un premier temps, les températures vont continuer d'augmenter. Demain, les très fortes chaleurs épargneront seulement les bords de Manche. Et encore, il fera quand même 30 degrés. Les 40 degrés seront fréquents entre la Nouvelle-Aquitaine et le Golfe du Lion. Les nuits vont devenir de plus en plus difficiles. On devrait voir une évolution de la vigilance orange en direction des régions du centre et du bassin parisien. À partir de mercredi, les températures devraient assez peu évoluer. On va rester sur un plateau haut. Et ensuite, les modèles ne sont pas tous d'accord. On pourrait avoir une extension de la chaleur vers le nord ou un retour d'un air plus océanique. Ce qui est particulièrement difficile, en tout cas pour les organismes, c'est la répétition de ces épisodes de chaleur extrême sans réelle pause. Et c'est clairement une manifestation très concrète du changement climatique.
Alors la chaleur, le vent et la sécheresse qui attise évidemment les incendies, avec un très gros feu depuis samedi soir donc dans les Pyrénées-Orientales, dans le secteur de Trévillac et d'Y-sur-Tête, c'est à l'ouest de Perpignan, où les flammes ont parcouru 4600 hectares de végétation. Le feu n'est toujours pas fixé ce matin, nous dit le préfet, et 10 000 habitants du secteur ont dû être évacués là ces dernières heures dans les communes aux alentours, comme à Thuir, où vous êtes en direct ce matin pour RMC, Rachel Sadonine, avec des habitants donc qui ont dû quitter leur maison.
Oui, l'air pique encore la gorge ce matin ici, devant l'école maternelle où des familles entières ont passé la nuit sur des lits de camp. Comme Nathalie, mère de 3 enfants, son petit dernier n'a que 17 mois.
Ben, nuit blanche, très peu dormi cette nuit.
Et vous avez réussi à prendre quelques affaires en partant ?
Non, rien. On est parti en urgence. On n'a rien pu prendre, même pas les affaires du petit, rien.
Et votre maison ?
Mais elle est cramée. Je pense, parce que tout le village est cramé normalement. On a été encerclé par les fumées, par les flammes, et ça a tout pris rapidement.
Les cernes creusées, les yeux encore rougis par les fumées de la veille. Nathalie n'est pas seule. Au total, 100 de personnes ont trouvé refuge ici, à Thuir, dans l'attente ce matin d'être fixées sur leur sort de leur maison. Selon le dernier bilan des sapeurs-pompiers, 50 d'habitations a été détruite par les flammes.
Rachel Sadodine, en direct donc des Pyrénées-Orientales ce matin pour RMC. Ce premier gros feu de l'été va chambouler la troisième étape du Tour de France, qui est de retour en France aujourd'hui, avec après le grand départ à Barcelone, et qui va passer par les Pyrénées-Orientales. Et alors en fait, Maria Azé, vous êtes sur le Tour de France pour RMC en direct avec nous ce matin. L'étape du jour est maintenue, mais il n'y aura pas de public sur toute la partie française de la course.
Oui, tout à fait. Pour les 44 derniers kilomètres de course, la préfecture et le Tour de France demandent au public de ne pas venir sur le parcours. Impossible de bloquer toute la route, donc les autorités appellent au civisme des spectateurs. Objectif, éviter de devoir mobiliser les secours alors que ces derniers sont déjà débordés par l'incendie. Pour encourager les spectateurs à rester chez eux, la caravane ne passera pas sur la partie française. Des amendes pourront même être distribuées dans l'école et la zone d'arrivée en cas de non-respect des règles. Côté sportif, les véhicules de course et les équipes ont été informés tard hier soir que l'itinéraire pour aller aux Angles en dehors de la course avait été changé. Il faudra rejoindre l'arrivée en passant au maximum par l'Espagne. Pour les coureurs, le maintien de l'étape est un soulagement, même si l'on regrette que l'arrivée de la Grande Boucle en France se fasse sans public.
Maria Azé, qu'on retrouvera donc en direct cet après-midi sur RMC depuis la moto RMC pour suivre cette troisième étape du Tour de France. 196 km entre Granollers et Les Angles, première arrivée au sommet. C'est déjà la montagne sur le Tour au lendemain de la victoire du Mexicain Isaac Del Toro, victoire qui a été offerte sur un plateau par son coéquipier, le Slovène Tadej Pogacar. Mais le Mexique qui peut pas gagner à tous les coups. Hein.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Je vous dis ça parce que c'est l'Angleterre qui s'est qualifiée pour les quarts de finale cette nuit, 3-2 contre le Mexique dans un match plein de rebondissements avec un doublé par exemple en deux minutes du milieu de terrain anglais Jude Bellingham. Un peu plus tôt, c'est la Norvège qui a sorti le Brésil 2-1 avec un doublé cette fois de Erling Haaland. Et les larmes sur le visage de Neymar, l'image de la nuit, buteur Neymar pour l'honneur en toute fin de match. Cette Coupe du Monde qui est donc, je vous le disais, agitée par cette polémique. Avant le match la nuit prochaine entre les États-Unis et la Belgique, Nicolas Pelletier pour RMC, la FIFA a décidé d'annuler la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun qui avait reçu un carton rouge pourtant en dernier match et c'est Donald Trump qui a fait pression.
Oui, et selon de nombreux médias américains, Donald Trump a directement contacté le patron de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander le réexamen de la suspension du joueur américain Folarin Balogun. Juste après cet appel, l'instance a annoncé la levée de la suspension du joueur, une décision que ne comprend pas le sélectionneur belge Rudy Garcia, qui doit affronter les États-Unis ce soir.
Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. Voilà.
Merci à la FIFA d'avoir réparé une grande injustice, a directement commenté Donald Trump sur son réseau social. Aucune explication n'a accompagné la décision qui pourrait s'apparenter à un acte d'ingérence de la part des États-Unis. Stupéfaite par cette décision, la Fédération belge se réserve le droit de saisir le tribunal arbitral du sport.
Et c'est à 2h du matin que les États-Unis joueront contre la Belgique. On verra si ce pataquès a une influence sur le terrain. Et avant ça, il y aura un alléchant Portugal-Espagne à 21h sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet. Un mot pour vous dire qu'il ne vous reste que 5 jours pour vous inscrire pour la 17e édition des trophées PME RMC-BFM pour l'édition 2026. Vous êtes entrepreneur, vous dirigez une petite ou moyenne entreprise, et bien c'est le moment de vous inscrire, de participer et de gagner peut-être 100 000 euros d'espace publicitaire sur le groupe RMC. Il y a des entreprises extraordinaires qui ont véritablement pris leur envol grâce à notre concours des trophées PME, Too Good To Go, Blablacar, C'est qui le patron? Eh bien, tout cela, ils ont joué le jeu et ils ont été encouragés et portés par notre concours. Donc, vous vous inscrivez dès maintenant, vous inscrivez votre PME sur trophée-pme-rmc-bfm.fr. Trophée-pme-rmc-bfm.fr. Date limite ce vendredi et bonne chance à tous les entrepreneurs. Il est 8h09 sur RMC et RMC Story. On parle économie justement.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Apolline.
Comme à chaque campagne présidentielle, la réduction du nombre de fonctionnaires revient sur le tapis.
Oui, c'est le MEDEF d'abord qui, dans son plan d'économie de 100 milliards d'euros pour les finances publiques, veut réduire les effectifs du secteur public. C'est Gabriel Attal qui promet 100 000 fonctionnaires de moins. Édouard Philippe veut lui aussi réduire les effectifs. Et tous les derniers présidents de la République, sauf le socialiste François Hollande, avait promis cette cure d'amaigrissement, sauf que ça n'a jamais marché. Il y a aujourd'hui 5,8 millions d'agents publics et leur nombre ne cesse de croître, 25% de plus qu'en 97, un peu moins de 1% d'augmentation par an en moyenne, inexorablement. Alors, pour quelle raison? Eh bien, parce que les besoins de la population ont augmenté, hein, en matière de santé, en matière de transport. Il faut rappeler qu'on se déplace 5 fois plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans. On a créé des nouvelles missions sans jamais supprimer les anciennes. La décentralisation a créé plus de couches de décision et pas moins. Les collectivités locales, par exemple, sont celles qui ont le plus embauché. Et puis, dans tous les secteurs, comme la santé, la police ou l'éducation, il y a trop de fonctionnaires dans les bureaux et pas assez sur le terrain, sachant que le statut de la fonction publique freine évidemment tous ces ajustements.
Donc, on n'arrivera jamais à réduire le nombre de fonctionnaires?
Alors, jamais si on en fait un objectif politique de cette réduction. D'abord parce que le gouvernement se heurtera à la résistance des syndicats et aussi à l'incompréhension des Français face à l'insuffisance des juges, des policiers, des infirmières. Donc, la priorité, ce serait de commencer par redéfinir ce que doit être le service public du 21e siècle. Qu'est-ce que l'État doit faire en plus ou en moins? C'est un choix de société qu'ont fait plein de pays. Il y a des pays où on veut que des missions soient assurées par le service public, comme en Scandinavie. Des pays où on veut que ce soit des entreprises privées. Comment est-ce qu'on intègre les nouvelles technologies? Comment on remet des fonctionnaires sur le terrain, sachant qu'il y a une énorme marge de manœuvre, puisque un fonctionnaire sur trois va partir à la retraite d'ici 2035. Donc la réforme de l'État, c'est possible. Moins de fonctionnaires, pourquoi pas? Mais ça doit être une conséquence plutôt qu'un objectif qui ne dit rien à personne.
Et puis les chiffres du jour, on en est où? Ça monte ou ça descend?
Alors, sur les carburants, c'est d'une stabilité d'une semaine sur l'autre. Non, ça ne descend plus. On est à 1,89 le litre sur le gazole et le samplon 95. Le pétrole ne bouge pas. 71 $ le baril. On est sur les niveaux qu'on connaissait avant la guerre, toujours. Par contre, le gaz, lui, remonte. Il est passé de 40 à 44 euros le mégawattheure au cours des 10 derniers jours.
C'est comme si tout était gelé. Donc, merci Emmanuel. Il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Il est 8h12 sur RMC. Restez bien avec nous dans un instant. Le meilleur d'Arnaud Demanche. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le patron des magasins Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. Face à la nouvelle canicule, les grandes surfaces sont-elles prêtes? Est-ce qu'il y a encore du stock de clim, du stock de ventilateurs? Est-ce qu'il y a des pénuries? Et puis, est-ce que ces vagues de chaleur à répétition vont avoir des conséquences sur notre pouvoir d'achat et notamment sur le prix des fruits, des légumes, de l'élevage? Réponse donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Juste après, il y aura le choix de la rédaction. Mathieu.
C'est une exclusivité RMC ce matin. Le nombre de défaillances d'entreprises en hausse de 5% au premier semestre de l'année. Nous sommes au tribunal de commerce d'Avignon avec des chefs d'entreprise en difficulté. Et puis les dernières infos de la Coupe du Monde, bien sûr. C'est avec Virginie Fulpin. Rendez-vous à 8h50.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 sur RMC. C'est l'heure de retrouver Arnaud Demanche. Parce que même pendant ses vacances, vous retrouvez l'humoriste d'RMC. On vous a gardé le meilleur, Arnaud, qui revenait ce matin, vous allez l'entendre, sur les meilleures excuses quand on rate un rendez-vous.
Apolline, on se plaint souvent de nos politiques, mais ça va encore, je trouve, parce qu'aux États-Unis, le chef de l'Agence fédérale de gestion des urgences, en gros, c'est les super-pompiers américains, il a sorti une pépite cette semaine. Le gars affirme avoir été victime de téléportation involontaire.
Mais non.
Oui, le chef des méga-pompiers américains, pas n'importe qui. Téléportation involontaire, et pas n'importe où, il dit avoir été téléporté à son insu dans un magasin de gaufres.
Mais qu'est-ce que c'est vrai.
Délire. Non mais c'est vrai. Ah, Manu Le Chypre me disait moi ça m'arrive tout le temps.
Hier, c'est pas involontaire.
C'est pas involontaire. Hier, j'étais à la salle de sport, à rêvasser à la salle adverse qui m'attendait, et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé chez un marchand de gaufres. J'avais une double liégeoise tiède, chocolat noir suppléant chantilly, amande grillée dans la main.
Bah oui.
J'ai rien pu faire.
Bah bien sûr.
Non mais ça peut faire jurisprudence cette histoire de téléportation involontaire. Vous savez, les cambrioleurs. En fait, j'ai été téléporté dans la salle des coffres. Je sais pas comment c'est arrivé. Jack Lang.
Mais enfin. Mais qu'est-ce que je fais dans ce jacuzzi plein de mousse avec ces jeunes et faibles et Woody Allen?
Écoutez, ça se plaît.
Ça se plaît. Ça se plaît. porte-avions Charles de Gaulle a été localisé donc en temps réel grâce au profil Strava d'un officier de la marine qui faisait son jogging sur le pont.
Oui, Strava, tout le monde connaît.
Ça y est, on l'a.
L'application pour voir. Moi, je suis connecté d'ailleurs au Strava d'Emmanuel Le Chypre. Je peux suivre son parcours en temps réel. Hier, alors, j'ai vu, il a fait BFM Business Cantine, Cantine BFM TV, BFM TV Cantine, Cantine l'autre Cantine, parce qu'on en a deux ici, Cantine BFM Business, Business BFM TV, oui. Cantine.
Eh ben, ça fait bien 10 000 pas tout ça.
Ah, oui.
Mais d'où,
pas d'où et 10 000 calories aussi.
En tout cas, ça m'a surpris que ce soit un scandale. Je veux dire, c'est à cause de ça qu'ils ont localisé un porte-avions. Oui. Je ne savais même pas que c'était censé être discret, un porte-avions. Moi, je pensais que c'était là pour impressionner, que ça se voyait depuis la Lune.
Oui.
En tout cas, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un coureur Strava dans l'avion de la Malaysia Line Airlines. On serait moins emmerdé.
Oui.
Ceci dit, il a dû être content, le gars. Parce qu'il fait du sport, c'est pour le montrer. Puis d'un seul coup, il s'aperçoit que sur son appli, c'est l'emballement. Tout Internet le regarde. Et, oh, c'est ouf! Putain, les gars, il y a Vladimir Poutine. Il a commencé à me suivre. Quoi. Eh, c'est un président. Il suit mes perfs. Eh, j'ai un like de Xi Jinping. Putain, je dois courir vraiment super bien. Et alors, il a commencé à faire des vidéos. Salut la commu. Alors, merci d'être là, les fololos. Vous êtes nombreux à me suivre du monde entier. Je vois, il y a des gens en Iran, en Syrie, au Liban, en Amérique. Merci de votre soutien. Alors aujourd'hui, je vais tenter une petite course, un petit défi. Ça va être difficile à cause du vent parce que vous voyez, je suis à quoi ? Au large de Ispahan, à 4-5 km juste avant le détroit d'Hormuz. Ah merde, on a été repérés.
Patrick Bruel, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle.
Dont Nicolas Hulot, l'abbé Pierre, Patrick Bruel, le classement des Français préférés des Français. On va quand même le regarder différemment. C'est pas le JDD qui devrait publier ça, c'est le nouveau détective.
C'est ça.
J'espère que Jean-Jacques Goldman ne va pas tomber. Par contre, Thomas Pesquet, ça me déplairait pas.
Ah
je
oui.
prends.
Ah ouais, oui,
non,
vous
mais
prenez.
C'est pas contre lui, mais il est tellement parfait, ce gars-là. Ouais. C'est insupportable, lui. On va bien trouver une martienne à qui il a tripoté les 3-5 qu'elle a dans le dos. Il va nous dire, ah, c'était juste un slow, parce qu'il a réponse à tout, en plus. Il est intelligent.
C'est dingue.
En tout cas, on n'écoutera plus jamais les chansons de Patrick Bruel comme avant. Alors, regarde un peu. Bah non, monsieur, on va pas regarder ça. Remettez votre pantalon. Rendez-vous, place des grands hommes. Non.
Oh non.
En tout cas, vous voyez, c'est encore une star des années 90 qui vient de nous quitter. C'est le décès. Adieu, Patrick. Funeste destinée. Monde cruel. Iras-tu jusqu'à nous prendre Ménélique, Willy Denzel, Alliance Ethnique, Nadia ou Alain Duhamel? Non.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Arnaud Demange, que l'on retrouve à tout moment en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr. Il est 8h20 sur RMC et c'est le moment de faire gagner Charles. Bonjour Charles.
Bonjour.
Charles, mais quel bonheur, vous avez gagné le week-end, les vacances Bellambra. Comment ça va alors?
Mais écoutez, très bien, c'est une belle récompense parce que ça fait pratiquement 20 ans jour pour jour que j'écoute RMC.
Oh.
Donc il faut que je fasse un beau cadeau aujourd'hui et en plus on a avec un super soleil, donc c'est une très très belle nouvelle.
Eh ben ça fait très 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 plaisir de récompenser votre fidélité, Charles. Vous êtes à Oloron-Sainte-Marie, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Tout à fait, et donc vous allez pouvoir partir en vacances, vous le savez, hein, vous avez remporté les vacances à la mer ou à la montagne. Vous avez une idée de ce qui vous ferait plaisir?
Oh bah avec le climat en ce moment, la mer, parce que la montagne, moi je l'ai quasiment à 40 km, donc je prends la mer pour changer un petit peu.
Voilà, on va changer un petit peu. Donc Charles, écoutez, on vous envoie en vacances dans un des séjours Bellambrun, dans un des clubs et hôtels Bellambrun. Vous pourrez choisir parmi 45 destinations. On est très 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 heureux de vous les offrir. Charles, moi, vive RMC, vive les vacances. Et on est très très heureux pour vous. Et vive Charles, vive les Charles, exactement. Il est 8h21 sur RMC, on vous en offrira d'ailleurs toute la semaine hein, des séjours Bellambra. Dans un instant, c'est le face-à-face sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est Michel-Édouard Leclerc. On va revenir, tiens, vous avez peut-être entendu à 7h40, je recevais Delphine Bateau, sur la question des grandes promos, des promos Lidl sur la clim. Ça avait provoqué une véritable cohue. Qu'en pense Michel-Édouard Leclerc? Et puis surtout, est-ce qu'il a du stock, lui? On y revient dans un instant sur RMC et BFM TV. Puis juste après, il y aura le choix de la rédaction avec Élise, mais pour l'heure, il est 8h22.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Et un coup de théâtre, Cédric Jubilard qui passe aux aveux et reconnaît le meurtre de son épouse Delphine Jubilard il y a 6 ans dans le Tarn. L'information est révélée ce matin par le journal La Dépêche. Cédric Jubilard l'a écrit dans une lettre adressée à ses avocats, lui qui avait toujours nié toute implication jusque-là dans la disparition de sa femme. Le feu n'est toujours pas fixé ce matin dans les Pyrénées-Orientales. 4600 hectares de végétation parcourus par les flammes depuis samedi soir à l'ouest de Perpignan. 10 000 habitants évacués dans les communes aux alentours avec une incidence sur la troisième étape du Tour de France aujourd'hui, les 196 km entre Granollers et Les Angles. Vous savez que le peloton va quitter l'Espagne pour revenir en France, première étape de montagne. Mais toute la partie française et les deux dernières ascensions se feront sans public, sans caravane publicitaire en raison de l'incendie dans le secteur. Pas un seul pompier mobilisé sur le Tour de France, assure le préfet de ce département. Les résultats de la nuit à la Coupe du Monde de football, c'est la qualification de l'Angleterre 3-2 contre le Mexique, doublé de Bellingham en 2 minutes. Et la qualification de la Norvège 2-1 contre le Brésil, doublé de Haaland, un pénalty mais surtout des larmes pour Neymar. Le prochain huitième de finale sera ce soir à 21h, on verra ça sur RMC, l'Espagne contre le Portugal. Enfin la météo, cette nouvelle semaine de canicule là qui commence avec 16 départements en vigilance orange, 9 près de l'Atlantique en plus des 7 près de la Méditerranée qui l'étaient déjà, et les températures qui vont grimper encore et toujours. 30 cet après-midi à Nice, 32 à Nancy, 34 à Lyon, 35 à Paris, 37 à Marseille, Perpignan, Montpellier, Toulouse, Biarritz aussi. Il fera jusqu'à 38 à Bordeaux.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité, c'est Michel-Édouard Leclerc. On va parler prix, évidemment. D'abord, prix de la clim, prix des ventilateurs. Est-ce qu'il y aura des pénuries et des ruptures de stock alors qu'une nouvelle vague de chaleur arrive? Et puis, prix des fruits et légumes, prix de l'élevage, les conséquences de la chaleur sur nos agriculteurs et donc, forcément, dans les rayons. Réponse dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc.
Bonjour Apolline.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Alors il y a de très nombreuses questions à vous poser, notamment sur les conséquences de la canicule sur les prix, sur la hausse potentielle des prix, sur l'agriculture. Mais d'abord, est-ce que vous avez du stock? Est-ce que les Français continuent à venir dans vos magasins pour demander des clims, des ventilateurs, de quoi se rafraîchir?
Non, moins maintenant. Je pense que la plupart des personnes sont équipées. Faut pas oublier que les écoles sont fermées, que beaucoup de gens sont déjà partis en vacances. Je vous arrive en courant de ma Bretagne où finalement il fait bon. Une petite canicule, ça nous
fait
du bien.
C'est le moment de faire votre pub.
Oui. L'Aune, c'est pas, l'eau reste froide. Mais c'est the place to be.
OK.
Non, c'est plutôt chez les agriculteurs qu'il y a des problèmes. Parce qu'ils en parlent peu, parce que pudiquement c'est pas facile d'en parler, mais il y a beaucoup de mortalité dans les élevages de volailles notamment.
On va y venir sur les, ouais, sur les élevages, mais c'est vrai qu'on a vu ces scènes, vous les avez vues ouais, comme nous, ces scènes où il y a des Français qui se sont rués, notamment dans les magasins Lidl, qui avaient annoncé une promo. Je recevais ce matin sur RMC Delphine Batho, l'ancienne ministre ouais, de l'écologie, qui a décidé carrément de saisir la DGCCRF contre Lidl, estimant que c'était une fausse promo, que c'était en fait qu'ils annonçaient faire une promo sur les clims qui en réalité étaient vendues encore moins cher un peu plus tôt. D'abord sur le fond, le fait que les gens se ruent sur les clims, c'est la faute de Lidl? C'est Lidl qui a organisé ça?
Non, je pense que peut-être ils ont provoqué cette ils étaient pas chers, hein, c'est clair, mais ils arrivaient un peu après l'équipement général. Il y a beaucoup de gens qui venaient acheter pour revendre aussi.
Ça donc, a été le cas, hein, visiblement, il y en a qui se sont retrouvés de ces kilomètres d'heure très
mouvements
vite
comme ça,
en revente.
C'est les mouvements du dernier coup, quoi. Et donc, je pense pas que Lidl ait déconné. Je pense que tout simplement, on entend aussi dans les médias qu'il va encore y avoir une canicule encore pendant 10 jours. En fait, personne n'en sait trop rien. Mais tout le monde
a déjà une vigilance orange sur 17 départements aujourd'hui.
Je vous rappelle quand même que les écoles sont fermées.
Vous êtes moins inquiet. Je vous sens moins inquiet. Mais cela dit, Michel-Edouard Leclerc, je reste sur cette histoire de Lidl. 200 000 climatiseurs qui ont été vendus donc à moins de 200 euros et des scènes, effectivement, de ruées sur ces clims. Qu'est-ce que ça dit de la consommation aujourd'hui?
Ça dit plutôt de l'anxiété, le fait de pas avoir, de pas être prêt. Et d'ailleurs, ce que ressentent les consommateurs, il faut en tirer les conclusions pour nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs. C'est très facile de faire le procès à l'État de pas avoir prévu. Enfin, bon, l'État n'est pas maître de la météo. Mais même nous, entrepreneurs, ça veut dire que Jean Covici, il a quand même raison. Tout a déjà été dit. On va avoir ça tous les deux ou trois ans, alternant avec beaucoup de pluie. Donc, il faut aujourd'hui qu'on adapte nos entreprises, notre offre.
C'est le cas chez Leclerc.
C'est déjà une conviction personnelle. Moi, je suis très.
Je me souviens que vous aviez annoncé ici la fin des tickets,
prospectus, la suppression des sacs plastiques. Ça a été notre combat. Je pense que Jean Covici le dit quelquefois de manière, vous le recevez souvent de manière un peu professorale, mais je crois que là, tout le monde comprend que quand ça arrive quoi. Et donc c'est trop tard. Donc nous, on va investir près de 2,3 milliards d'ici 2030. Dans la lutte anti-gaspi, dans des nouvelles machines de réfrigération, dans la géothermie, dans la pose de panneaux solaires. On veut devenir autonome sur le plan, ou quasi autonome sur le plan de la production d'électricité, faire une électricité propre. On va lancer la bataille. Là, on lance la bataille à partir de cette semaine de l'électricité la moins chère pour les recharges électriques. On croit à l'électrique. On croit aussi aux alternatives. Je vais vous quitter juste après pour aller dans une grande coopérative de l'Est signer un contrat éthanol pour faire du E85, pour rajouter aussi de l'alcool à partir de l'agriculture décarbonée pour mettre dans le E10 et le E5 là, et donc vous voyez c'est on part quoi donc, tout azimut là-dessus, et ça c'est à la fois
il y a une responsabilité
des entreprises. Nous avons un bilan carbone qui est de l'ordre de 70 millions de tonnes d'émissions carbone. Il faut diminuer de moitié ces émissions de carbone d'ici 2035. Alors pour que les gens pour que le public ce soit aussi un critère de choix d'acheter des produits qui sont pas trop carbonés, qui n'émettent pas trop de carbone, on l'affiche partout, on l'affiche sur nos textiles aujourd'hui à marque de distributeur avec toutes les conditions de production d'environnement, on affiche sur toutes les marques de distributeurs, marque repère, enfin pour nous toutes les marques de distributeurs, je vais pas faire de la publicité, et puis c'est un même sur les voyages, vous voyez, on est devenu un gros voyagiste français, vous allez pouvoir calculer l'émission de carbone de votre voyage en allant dans votre hôtel, dans vos déplacements. Alors au début c'est aride, mais ça va permettre d'étalonner le suivi de la promesse.
Et vous pensez qu'ensuite les Français seront responsables et calculeront et se diront, parce que vous citiez Jean Covici, mais Jean-Marc Jancovici, lui il va jusqu'à dire qu'il faut renoncer à l'avion, ou alors se dire on fait, je sais pas, 4 voyages en avion par an, ou par vie même.
Ça c'est son choix personnel. Moi j'ai
c'est ce qu'il espère pour l'humanité.
Ouais, moi j'ai des collaborateurs qui m'empêchent de louer des avions, qui me tiennent mon bilan carbone. Je vais aller sur le Tour de France, je peux vous dire que d'abord Stellantis nous a prêté des voitures électriques. Dans ma propre vie, même à 74 ans, je vais essayer de me mettre comme un adolescent d'aujourd'hui qui va vivre demain une vie décarbonée.
Donc s'adapter. Ouais. Je vous pose aussi la question des prix, parce que si j'en reviens toujours à cette fameuse scène de cohue autour des clims pas chers de Lidl, vous vous présentez régulièrement, Michel-Edouard Leclerc, comme l'homme du pouvoir d'achat des Français. Est-ce que ce que l'on a vu là est aussi le symptôme du fait que ces canicules ont révélé à nouveau des vraies inégalités des Français, et que y a des choses qui restent des produits qui pendant longtemps ont été des produits qu'on a presque empêcher les plus modestes d'obtenir.
Oui, mais c'est quand même, vous le voyez bien quand même dans la vie quotidienne, il y a des gens qui rament, il y a plus d'un million de Français. Et ça ramène
je trouve frappant le décalage entre ceux qui m'appellent notamment au 32-16 sur RMC pour dire que c'est vital pour eux, et que donc ils se jettent sur effectivement la clim, et puis les politiques qui continuent à dire, comme le maire de Paris hier, climatiser son appartement c'est réchauffer celui de son voisin. On vous a pas empêché, vous, de mettre la clim dans des énormes espaces de supermarché. Pourquoi on empêcherait les particuliers?
C'est le problème du décalage. Sans vouloir faire du populisme, on dirait qu'il y a des politiques qui font pas leurs courses ou qui vivent pas comme les conditions des gens. J'exagère parce qu'il y a des belles personnalités, c'est pas le sujet. Mais vous voyez, par exemple, là, on a...
Votre confrère, d'ailleurs, Thierry Cotillard, dit les politiques sont aujourd'hui complètement déconnectés.
Ben oui, et Dominique Schelcher dit ça aussi de Coopérative U. J'ai réussi à dire Coopérative U et pas Système U. Vous voyez, par exemple, le prix des carburants, là, Total ne fait plus son plafond. On lui a mis 12 centimes d'écart, là. Ben, les gens se précipitent. Ils viennent chercher à un euro près le carburant moins cher. Là, aujourd'hui, on a sur le gasoil, on a des stations qui sont en train de passer en dessous de la barre des 1,80. Ça descend pas assez vite. Mais
pourquoi ça bloque?
Vu d'un homme politique, vu du Parlement, ils comprennent pas. On a eu une commission d'enquête parlementaire délirante, infantile, en fait, contre les gens qui vendaient moins cher. Mais regardez le succès de l'opération de Macron pour les... C'est fini la fac, là. Mais les déjeuners à 1 franc, à 1 euro, dans les crous, dans les restaurants, ils se rendent pas compte qu'il y a tout un public dont le salaire médian est de 2000 euros par mois, qui en ont marre des grands discours sur les retraites ou sur qu'ils toucheront pas, ou sur la gestion des finances publiques sur lesquelles ils n'ont pas de prise. Et donc, c'est au sous le sous qu'il faut leur répondre.
Justement, dans les rayons, d'abord à la pompe, je vous repose quand même la question, pourquoi ça bloque? C'est-à-dire que là, on a quand même l'impression que les prix stagnent depuis une bonne dizaine de jours.
Non, ça descend quand même, ça a reperdu 30 centimes par rapport au point haut du conflit. Il y a des bateaux qui passent d'Hormuz, il y a des chaînes de camions.
Est-ce qu'on peut espérer, avant la fin de l'été, retrouver les prix d'avant la guerre?
Je ne me risque plus à faire la pitié. Je vous m'avais dit la boule de cristal. Je n'ai pas encore cette qualité-là, mais ça descend quand même. Mais on est à la merci du moins de coup de gueule dans le détroit d'Hormuz, quoi. Et donc, comme ils n'ont pas l'air très rationnels ni très raisonnables, je préfère ne pas m'avancer. Mais aujourd'hui, par exemple, on est, je crois que c'est, voilà, j'ai là, on est à 1,82 sur le gasoil Leclerc, suivi de Système U et d'Auchan. Et sur le E10, vous voyez, Leclerc, on est à 1,80. Et derrière, il y a Intermarché, Cora. Et Total Energy, c'est 12 centimes derrière, quoi.
Hein, donc, de plus, en réalité.
Ouais, de plus. Ouais, ouais, ouais. Donc, on a réussi
ça veut dire que Total fait pas le boulot.
Ça veut dire que Total, il a fait le boulot pendant un mois, quoi. Ben, il avait cagnoté quand même pendant 3 ans.
C'était bien le moins, vous estimez.
C'était bien le moins qu'il pouvait faire, oui.
La question du prix des fruits, des légumes, des produits, de la viande, de la volaille, eux aussi subissent évidemment les conséquences de l'extrême chaleur.
Pas encore. C'est-à-dire que c'est probablement à venir. Comme je vous le disais tout à l'heure, une semaine de chaleur dans l'agriculture française, on sait tenir dans la vigne et tout ça. C'est pour le après. Si ça dure trop longtemps, évidemment, il y aura des problèmes. Alors, il y a des problèmes de tenue de qualité de fruits, notamment les fruits rouges. Quand il y a des chaleurs comme ça, ça mûrit pas, hein, ça pourrit. Donc, tous les professionnels sont sur la chaîne de froid. Donc, ça veut dire qu'il y a des coûts d'énergie, il y a des coûts de transport, par exemple pour la collecte de lait. Alors j'ai lu mon West France dans le train hier soir, ils ont énormément de problèmes. Les vaches aussi ont des rendements de laitiers moindres. Donc effectivement, il peut y avoir soit de l'inflation, soit des ruptures dans les.
Vous n'en avez pas pour l'instant.
Pour le moment, non. Faut pas crier au loup. Pour le moment, c'est des problèmes qui sont à venir. Par contre, je voudrais insister là-dessus vis-à-vis de la canicule. On n'est pas égaux, et vis-à-vis de la crise de l'énergie, on n'est pas égaux en Europe. Hein, vous entendez pas trop les pays de l'Europe du Nord qui, eux, vont chercher du pétrole en mer du Nord avec des dériques, avec des... Et donc, moi, je crois très important, aujourd'hui, la loi Egalim, la loi qui protège, qui m'empêche de négocier, qui empêche les distributeurs de négocier la matière première agricole, je voudrais aujourd'hui qu'elle soit, d'une part, élargie aussi bien aux industriels, à ceux qui exportent vers l'Europe, à la restauration et aux cantines, parce que ça me paraît assez débile de faire appliquer une loi de protection de rémunération des agriculteurs que sur la seule distribution qui n'est pas le premier client de l'agriculture.
C'est-à-dire, Michel Leclerc, ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'en fait une partie de, vous dites, les cantines, la restauration, en fait ne joue pas le jeu aujourd'hui?
Absolument. Les cantines, c'est à peine 30% de produits français dans leurs appels d'offres. Et si vous allez à Rungis, c'est pas du tout appliqué non plus, et vous savez bien que les
C'est-à-dire quoi? Vous demandez à Rungis, par exemple, de dire précisément combien ils ont négocié la matière première agricole ?
Pour les agriculteurs défendant la ferme France, et quoi qu'on dise de la grande distribution, je demande, mais je pense que mes collègues demandent la même chose à la Fédération du commerce et de la distribution, que la loi qui nous empêche de renégocier, y compris à la hausse, la matière première agricole, soit appliquée à tout l'ensemble des acheteurs. C'est pas le cas.
Il y a quoi ? Il y a une forme d'hypocrisie ?
Oui, il y a une forme d'hypocrisie, de recherche de bouc émissaire. Il y a une deuxième chose.
Vous portez le chapeau, quoi.
Ouais, il y a une deuxième chose. Et ça, c'est vraiment très important aujourd'hui, alors que les marchés sont libres, notamment en Europe, les indications d'origine. Mmh. Alors, nous, distributeurs, aujourd'hui, nous menons le combat, et Leclerc, on met l'origine du produit. C'est Olivia Grégoire qui avait lancé l'idée Origine Info.
Quand elle était ministre de la Consommation.
Aujourd'hui, on met de l'origine des quatre principaux ingrédients, même d'un plat transformé, composé, etc. Je demande à ce que les industriels appliquent ça, c'est-à-dire que eux aussi, sur tous les produits dont ils nous demandent de ne pas négocier les produits agricoles, la part agricole, qui mettent les indications d'origine.
Mais vous pensez à quoi ? C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple, je sais pas, d'une pizza Buitoni ou de ne sais quoi. Est-ce que vous demandez dans ces cas-là à Buitoni, par exemple, de vous dire exactement d'où vient le jambon, d'où vient le morceau de champignon, d'où viennent les tomates de la sauce tomate et d'où
vient
le blé ?
Absolument, parce que vous voyez. Moi, je veux bien ne pas avoir à négocier le prix du cochon breton, mais si c'est du cochon espagnol, je vois pas pourquoi je ferais payer le consommateur français plus cher pour le cochon espagnol.
En fait, la loi Egalim, elle touche les produits français. Donc, ce que vous dites, c'est que dans des produits, y compris de marques françaises ou étrangères, ils doivent eux aussi être transparents sur l'origine agricole.
Oui.
De tout ce qui rentre dans la composition
autant,
de leur plat.
Autant je suis pour défendre à la ferme France, voire rémunérer plus la ferme France, mais si les industriels sont exonérés de dire d'où vient leur cochon, leur lapin, leur poulet, etc., à ce moment-là, on demande aux consommateurs de payer plus cher des agriculteurs étrangers. Et c'est quand même pas normal. Et ça, c'est quand même une hypocrisie.
Mais quelles seraient les conséquences, pardon, mais tirons le fil jusqu'au bout, Michel-Edouard Leclerc. Vous dites, voilà, moi, je veux qu'ils puissent dire. Et alors, à ce moment-là, on va se rendre compte que, je sais pas, moi, que sur la Regina de je ne sais quelle marque, ben en fait, le jambon, il est espagnol ou polonais. Quelle sera la conséquence ? Qu'est-ce que vous vous direz, Michel Leclerc, quand vous achèterez la
jeune génération, et même aujourd'hui, ma génération,
Est-ce que la conséquence sera pour le consommateur ou est-ce que la conséquence sera pour vous dans la négo des prix ?
La conséquence sera pour l'agriculteur. L'agriculteur français doit pouvoir bénéficier d'une exception agricole comme il y a une exception culturelle. Il faut qu'on puisse soutenir la ferme France. Et la ferme France, c'est pas simplement le grand distributeur qui doit être obligé de la soutenir. Ça doit être aussi la restauration, ça doit être les cantines. Et je suis persuadé en plus que les consommateurs vont regarder ça. De la même manière, ils vont regarder. Il y a le débat sur la réintroduction des néocotinoïdes dans les betteraves, pour le sucre et tout ça. De la même manière, moi je pense aussi, c'est une troisième idée forte, c'est qu'il faut développer, généraliser le Nutri-Score. Nous voulons savoir ce qu'il y a dans les produits. On veut connaître l'origine, on veut savoir combien de carbone ça crame.
Et on veut savoir la qualité.
Et on veut savoir la qualité. Et donc je vais signer la pétition, à titre personnel, je vais signer la pétition du Dr Herberg, qui est le promoteur.
Qui demande l'obligation en fait du Nutri-Score, et que ce ne soit pas uniquement les marques.
Et je pense que tous les distributeurs pourront faire de même. En tout cas, j'inviterai tous les consommateurs à signer. Parce que aujourd'hui, c'est quand même un effort, une pédagogie. C'est pas idéal. On peut discuter certains points, des critères, mais c'est le début d'une pédagogie où tout le monde va regarder ce qu'il mange, ce qu'il achète. Et je suis persuadé, vous voyez, un peu comme les jeunes aujourd'hui qui achètent des vins pour regarder si c'est sans sulfite ou avec sulfite. Je pense que ça, c'est tout ce qui se passe sur le climat, la fatigue, le corps, tout ce qu'on discute sur la souveraineté alimentaire, on doit faire ça.
Michel-Edouard Leclerc, c'est vrai qu'Olivier Faure vous a proposé de participer à la primaire de la gauche ?
Oui, c'était dans des conditions plus sympathiques et plus drôles que telles que relayées. Oui.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était une boutade ?
Non, je pense qu'ils veulent savoir si c'est du lard ou du cochon. Le fait que je sois coté à la bourse des présidentiables. Et donc, moi, j'en profite du coup. J'ai rien demandé, hein. Vous me connaissez un peu. Mais par contre, je me aperçois que j'intéresse non pas parce que justement je représente 18 millions de clients et un réseau national, ça on me pose aucune question comme vous sur ce qui se mange, ce qu'il faudrait faire, mais par contre quand je suis cotable et donc concurrentiel
mais
sur
mais vous avez envie d'y aller ou pas ?
Non, je suis beaucoup
vous
plus
Vous avez pas du tout envie d'y aller non, ou vous avez un peu envie d'y aller ou non, vous non. pourriez avoir envie d'y aller ?
je pourrais avoir envie d'y aller, voilà. Parce que je trouve que, en fait, les sujets essentiels des Français, les sujets sur le pouvoir d'achat, sur les salaires, la réduction des écarts de salaire entre le brut et le net, tout ça, c'est le mode de vie des Français, je trouve qu'il n'y a pas de projet collectif.
Vous seriez de droite ou de gauche ?
Je pense que je serais progressiste, humaniste. Je sais pas quoi. Je voudrais un projet collectif. Avant de dire la différence, avant de dire chacun, je veux faire mes 12% pour me retrouver face au Front National, je pense qu'il faut faire 51% des Français d'accord sur un projet collectif.
Et vous déciderez quand ?
Oh, mais vous m'y aiderez ?
Non. Je vous écouterai, je vous poserai des questions, effectivement, et c'est donc on verra bien si à un moment vous lâchez le morceau. Si vous dites si c'est du lard ou du cochon.
Ouais, pour le moment, regardez tout ce que je suis en train de dire.
En tout cas, tant que vous acceptez de venir répondre aux questions, je pourrais la poser. Et est-ce qu'à un moment vous allez vous planquer?
Non, jamais. Bon. Je me planque pas. Non, je suis un mode combattant, action. Je vous l'ai déjà dit, philosophie
de Teddy Riner. Mais je sais que, par exemple, il y en a certains qui disent à gauche, il faut attendre l'automne, c'est à l'automne que ça va se décanter. À droite, Jean-François Copé, qui était mon invité ici même, dit, c'est pas avant l'été, mais c'est au retour de l'été.
Je pense exactement comme mes autres collègues distributeurs qui sont sur le terrain, et notamment Dominique Schelcher, je crois que c'était chez vous qu'il le disait. Il y a des sujets très angoissant pour la société française. Personne n'y répond. Pour le moment, il y a des chefs de paroisse, chacun dit c'est moi. On parle d'alliance et tout ça, mais il n'y a pas de contenu.
Et donc, si vous estimez que personne ne répond à ces questions-là, vous irez.
Et s'il n'y a personne pour répondre à ces questions-là, il faudra bien y répondre. Alors, je ne sais pas encore quelle est la manière la plus efficace par laquelle on répondra.
Je vous ai pas répondu, j'étais malin. Je vous reposerai la question, vous pouvez compter sur moi. Merci Michel-Edouard Leclerc d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47.
Merci Apolline. Les défaillances d'entreprises en hausse cette année encore. C'est l'information qu'RMC dévoile ce matin. C'est le choix de la rédaction dans un instant. Et puis le journal de la Coupe du Monde avec Virginie Fulpin. Restez bien sur RMC. On revient tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC. Virginie Fulpin est avec nous, le mondial de Virginie à suivre. Bonjour Virginie.
Bonjour.
C'est dans un instant avec les toutes dernières infos sur le mondial et les derniers huitièmes de finale. Mais avant cela, on va parler de défaillances d'entreprises. Elles sont en hausse. Bonjour Victor Joannin.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes reporter au service économie société d'RMC. Et c'est une exclusivité RMC ce matin. Il y a 34 000 défaillances au premier semestre. C'est 5% de plus qu'il y a un an. Et pour tous ces patrons au tapis, il y a un passage incontournable. Le tribunal de commerce. Victor, vous avez passé une journée en immersion au tribunal de commerce d'Avignon.
Oui, des dizaines de chefs d'entreprise poussent les portes du palais de justice chaque semaine, soit parce qu'ils sont convoqués, soit parce qu'ils viennent demander de l'aide pour redresser leurs comptes. On les reconnaît facilement, ces patrons. Les traits tirés, la mine sombre, le dos courbé comme chargé d'un poids et l'air intimidé par la solennité du lieu.
C'est très dur. Toi, tu es un petit campagnard de ton truc, t'as jamais eu à faire la justice de toute ta vie et tu te retrouves là avec... Je sais pas si ça s'appelle la salle des pas perdus, mais si c'est la salle des pas perdus, là pour le coup, ça porte bien son nom. Hein.
Patrice a 62 ans, il est aujourd'hui contraint de lâcher son imprimerie et de prendre sa retraite pour éponger ses dettes. Cette imprimerie, il l'avait fondée au début des années 80, une entreprise florissante jusqu'à 16 salariés. Mais à partir des années 2010, changement d'époque.
Oui, le numérique prend la place du papier.
Voilà, Patrice perd ses contrats et il n'écoute pas son expert comptable qui lui conseille de licencier.
Comme c'était une petite boîte familiale, il fallait prendre des décisions qui étaient drastiques. Et j'ai pas voulu les prendre. Parce qu'il y avait des gens avec qui je travaillais depuis 40 ans. J'avais été au baptême, j'avais été au mariage, j'avais été à des anniversaires. Donc tu essayes de tenir. Et puis voilà. Et au moment, tu te retrouves là, sur Avignon, au tribunal.
Au tribunal d'Avignon, les audiences s'enchaînent. Frédéric sort de la sienne. Il vient de demander au juge de liquider sa petite entreprise de carrosserie.
C'est très bien passé, les gens sont très compatissants, très aimables, ils savent bien de quoi ils parlent, ils connaissent bien les problèmes. Là, je vais être quand même avec un liquidateur et après je serai libéré. C'est le mot, hein. Sort du tribunal, on est libéré.
Oui, libéré de cette pression permanente, Frédéric repart soulagé d'un énorme poids. Le liquidateur va l'aider à vendre son matériel pour effacer son ardoise. Il a perdu sa boîte, mais il retrouvera facilement du boulot comme carrossier.
Frédéric parlait des juges, ils savent de quoi ils parlent, disait-il. On a l'impression que ce ne sont pas des juges classiques.
Et ils portent une robe noire, mais ce sont eux-mêmes des dirigeants d'entreprise qui exercent tous bénévolement à l'image de Grégory Herbé, expert comptable basé dans la ville d'Orange.
Je pense que ça c'est important pour le chef d'entreprise de savoir qu'en face de lui, il a des gens qui connaissent les mêmes difficultés, qui connaissent les mêmes soucis, qui ont les mêmes inquiétudes, mais on a aussi un rôle de magistrat avant tout. Et le magistrat, il est aussi là pour veiller et sanctionner les comportements déviants.
Des patrons malhonnêtes, il y en a beaucoup, Victor ?
Bah, ça existe, mais c'est une minorité. Hein. La plupart de ceux qui défilent au tribunal sont des petits patrons isolés. Et pour eux, eh bien, c'est trop souvent les 3D, comme on dit dans le jargon. Hein. 3D, dépôt de bilan, divorce, dépression. Or, si le patron pousse la porte du tribunal suffisamment tôt, un juge de la prévention peut l'aider à éviter la faillite. Et malheureusement, eh bien, vous l'avez dit, hein, les défaillances d'entreprise sont à des niveaux records. Au tribunal d'Avignon, on est à plus 10% sur les 6 premiers mois de l'année.
Merci Victor Joinin pour cette exclusivité, reporter au service économie et sociale d'RMC. La Coupe du Monde est déjà terminée pour le Brésil.
RMC, le mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. Les Brésiliens ont été battus hier soir 2-1 par la Norvège en 8e de finale.
Alors on se moque tout de suite moins des tonnes de poissons transportées dans les soutes par les Norvégiens ou du fameux Viking Row des supporters. Voilà, la Norvège, non, ça n'est pas que du folklore, ça n'est pas que l'équipe bis qui a perdu contre la France, c'est l'équipe qui sort le Brésil avec un doublé d'Erling Haaland. Il en est déjà à 7 dans la compétition, c'est-à-dire comme Kylian Mbappé, comme Lionel Messi. C'est la fin d'une époque hein, aussi, puisque Neymar a annoncé sa retraite internationale après cette défaite. J'ai essayé, maintenant c'est fini. Voilà ce qu'il a dit.
Alors ça va toucher Désiré Doué ce départ.
Neymar est l'idole de Désiré Doué. Et samedi soir, après avoir provoqué le pénalty qui a donné la victoire à la France contre le Paraguay, le joueur du PSG a dédicacé un maillot pour Neymar, comme le Brésilien l'avait fait pour lui quelques jours avant, pour mon idole, avec toute mon affection.
Ah bon, papa.
avec le petit accent d'antan, voilà, ça va mettre du baume au cœur de Neymar.
La Fédération française de foot va demander l'annulation du carton jaune de Michael Olise.
Un carton pris dans le temps additionnel interminable de 8e de finale. L'arbitre l'a infligé à Michael Olise pour une altercation avec le Paraguayen Mathias Galarza. Oui, sauf que les images montrent bien que le numéro 11 des Bleus ne touche absolument pas son adversaire. Il met son doigt devant sa bouche pour lui dire de se calmer. On a déjà vu plus violent comme geste. C'est important cette réclamation parce qu'imaginez que Michael Olise prenne un autre carton jaune contre le Maroc en quart de finale et que la France se qualifie pour les demi, bah lui, il jouerait pas cette demi-finale. On a déjà sa chanson, on va pas nous gâcher la fête quand même. Hein.
Les Français, ils parlent anglais et ils enchaînent les passes-dés. Bientôt sur les Champs-Élysées, Michael Olise, on double.
Ouais, on l'aime bien quand même, Michael, ça marche bien, faut reconnaître. Hein, donc,
on l'attendait.
Bah, bien sûr, on l'attendait tous depuis le départ et on veut aller au bout avec ça. Donc c'est pas un carton jaune qui va nous saper le tube de l'été. Attention, il y a deux autres joueurs français qui sont sous le coup d'un carton jaune. Manu Koné, Bradley Barcola.
Apparemment maintenant on peut prendre un carton rouge sans être suspendu au match d'après.
Ah ben, ça dépend qui vous êtes et qui vous avez comme appui. Hein. Donald Trump aurait passé lui-même un coup de fil à Gianni Infantino après le carton rouge reçu par l'attaquant américain Balogun en 16e de finale contre la Bosnie. C'est le New York Times et d'autres médias américains qui le rapportent. Vous pensez bien que le président de la FIFA a écouté attentivement le président américain et hop, Balogun pourra jouer contre la Belgique la nuit prochaine en 8e de finale. Il n'est pas suspendu. Enfin, si.
C'est dingue.
Suspendu. Mais pour un match avec sursis pendant un an. Ça ressemble à une blague, ou plutôt à une ingérence inédite et assez grave si elle se confirme. La Belgique se dit stupéfaite et pourrait faire appel devant le tribunal arbitral du sport.
J'aurais dit oui à Donald Trump si tu m'expliques la règle du hors-jeu. Il y a un point commun entre Lionel Messi et Kylian Mbappé dans cette Coupe du Monde, a priori. Il marque beaucoup de buts, déjà.
Oui, alors 7 chacun, on est d'accord, comme Erling Haaland aussi. Mais c'est pas le seul point commun entre les deux. C'est Opta qui observe tout, calcule tout et fait des stats sur tout, qui a compté les deux joueurs passent 50% de leur temps sur le terrain à marcher, 50% à courir. Oui, les autres courent plus, mais ils marquent moins. Alors, si Kylian Mbappé continue à marcher la moitié du temps et à marquer autant, j'ai envie de lui dire qu'il ne marchera jamais seul.
Ouais, il peut même y aller en moonwalk, hein, tant qu'il va faire le but. Merci Virginie Fulpa. Suite et fin des huitièmes de finale ce soir en direct en intégralité sur RMC Radio officielle de la Coupe du Monde. Dans un instant, les GG, les grandes gueules. Quel est le programme, Alain Marchal? Bonjour Alain.
Bonjour à tous. On reviendra quand même sur cette ingérence de Donald Trump dans les histoires de la Coupe du Monde quand même. Est-ce qu'on est face à un véritable scandale? Vous venez en parler bien sûr avec nous. On reparlera des aveux de Cédric Jubilard. Marine Le Pen, est-ce que la présidence se joue demain? Édouard Philippe, son slogan « Croire en nous », mais est-ce que vous croyez en Édouard Philippe?
parce qu'il faut que ce soit réciproque, bien sûr. Et puis, on reparlera du canal Saint-Martin, avec un cadavre qui a été découvert dans le canal Saint-Martin. Alors, si vous plongez dans le canal Saint-Martin parce qu'il fait très chaud, soit vous tombez nez à nez avec un cadavre, soit vous vous tapez la tête contre un vélib qui a été balancé, ou alors contre du mobilier urbain jeté par Hamza. Si jamais vous avez passé la douane, bien sûr. Allez, vous venez en parler avec les GG, avec les grandes gueules, en direct sur RMC au 32-16 avec Didier Giraud, Charles Consigné, Joël Dagosséry.